Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, une émission pour les ceux et les ceux qui aiment les sensations fortes. D'abord, la découverte pour les amateurs de littérature de Lilia Hassen, une primo-romancière, avec un joli brin de plume, ce qui tombe bien puisque son premier roman a pour titre L'œil du Pan, ce volatile qui aime tant se pavaner en déployant sa queue luxuriante, comme je le faisais il y a encore quelques années lorsque la modestie n'était pas Nelson Montfort. Ensuite, accrochez-vous au fauteuil, si vous êtes assis, bien sûr, la nouvelle incarnation cinématographique du Joker, le seul et unique Joaquin Phoenix, un acteur qui renaît d'autant mieux de ses cendres qu'il a renoncé à fumer à la fin du tournage. Quoi ? Vous exclamez-vous certainement, Joaquin Phoenix, un des acteurs les plus dingues de sa génération et qui reprend un des rôles les plus mythiques sur lesquels des Jack Nicholson et autres Heath Ledger se sont déjà fait les dents, et pour parler d'une performance qui risque de laisser quelques traces dans l'histoire du cinéma. Mais dis donc, me direz-vous alors, Antoine, cette primo-romancière dont tu nous vantes les mérites et cet acteur génialissime dans le même programme, ne serait-ce pas là une émission pour les ceux et les ceux qui aiment les sensations fortes? Et je vous répondrai, si exactement, c'est même précisément ce que je vous disais il y a quelques instants. Allez, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Lilia Hassen.
Bonjour Antoine.
Bienvenue dans Popopop. Je vous présente, assise à mes côtés, une femme pour les ceux et les ceux qui aiment les sensations fortes.
Vous dites ça à cause de mon léger surpoids ?
Absolument.
Je vous remercie Antoine. Bonjour.
Bonjour Lilia.
Bonjour Charline. Lilia, dans la même année, vous défilez pour Jean-Paul Gaultier. Vous publiez votre premier roman dans la prestigieuse collection Blanche de Gallimard, après avoir été une chroniqueuse très remarquée du quotidien de Yann Barthès. N'est-ce pas cela la pop culture ?
Alors c'est vrai que c'est très gentil. On dirait que c'est un peu un grand écart quand on parle de la mode, quand on parle de la littérature. Enfin, pour moi, tout ça se rejoint. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler.
Absolument. Nous allons répondre à cette question, tout au moins tenter de le faire dans quelques instants. Au menu également de Popopop, lui donc.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
Rencontre avec le Joker, alias Joaquin Phoenix, tout à l'heure, et votre dose hebdomadaire de n'importe quoi.
J'avais acheté un super PC, il avait acheté un super PC.
Mais avant ça, Lilia Hassen, ici, il existe une question que je pose avec le sourire encore plus dérangeant et dérangé que le Joker, et cette question, c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture, Lilia Hassen ?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses hassanesques, Lilia Tivre, premier romanesque, et même gaultierophile. Et parmi mes préférés, il y a celle de Jean-Paul Gaultier, justement.
La pop culture, c'est à la limite, pop, ça vient de populaire. Donc, comment est-ce que j'ai appris, moi, la pop culture ? Je dirais à travers la télévision. Donc, c'est plein d'émissions, c'est à la fois, ça regroupe la musique, ça peut être la variété, tout ce qui touche les gens, en fin de compte, la pop culture.
Voilà pour Jean-Paul Gaultier, et pour vous, Lilia Hassen ?
Eh ben, pour moi, en fait, il n'y a pas forcément de différence entre la pop culture et la grande culture. Pour moi, la pop culture, c'est la culture elle-même. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'ambition de n'importe quelle culture que de devenir de la pop culture et de devenir une culture populaire. C'est ce pourquoi on écrit, c'est ce pourquoi on fait des films, c'est que ce soit vu ou lu par le plus grand nombre. Et d'ailleurs, il y a un truc un peu snob peut-être en France qui est de considérer que la pop culture, c'est quelque chose de peut-être un peu bas de gamme ou facile ou peu exigeant, et de différencier ça d'une forme de haute culture qui serait le fait de lire Proust tout en se pavanant dans des foires d'art contemporain. Mais je crois qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi tient le succès d'un Fabrice Luchini, c'est qu'il arrive très bien à montrer que la grande culture, c'est précisément de la grande culture, parce que ça parle au plus grand nombre, qu'il y a quelque chose d'universel chez Proust, quand il parle de la passion amoureuse, quand il parle des sentiments, quand Peggy parle de l'argent, ça parle à tout le monde. Et donc voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer pop culture et grande culture, et que c'est la même chose.
Voilà une réponse qui me convient parfaitement, d'autant plus qu'elle se rapproche étrangement de celle de Bret Easton Ellis, il y a quelques jours, qui disait la même chose que vous, il n'y a pas à faut arrêter.
Ah.
C'est ces nuances entre pop culture et culture tout court.
Vous pouvez refaire la voix du Joker ?
Oui, avec plaisir, ma petite Charlie.
Alors c'est très étonnant, c'est-à-dire qu'on est mis sur le Joker, mis sur l'angle de pute, il y a un truc un peu...
C'est presque peur, en fait.
C'est très bizarre.
Bien, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Popopop, juste après Casio, c'est un morceau signé Jungle.
Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're nerdy, that's not original. Send a call, alright, let's go now.
Casio, c'est signé du groupe londonien Jungle. Vous écoutez Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec une invitée qui a certainement partagé votre dîner. Enfin, une invitée dont vous auriez bien aimé qu'elle sorte de l'écran pour partager le vôtre. Mais qui est-elle? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Lilia, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Roux.
Oh là là, faut détacher les fils, c'est trop figé, c'est très étrange. Aujourd'hui, une invitée qui me semble drôlement indisciplinée. Enfin, en tout cas, drôlement pas décidée à rester là où on voudrait la poser. Et ce, dès ses jeunes années. Par exemple, enseigner, ce à quoi elle aurait pu prétendre après de brillantes études de lettres. Eh ben non, direction le journalisme, parce que c'est bien connu, il y a beaucoup plus de débouchés. Elle doit forcément avoir un projet fait de voyages presse, de selfies dans des jacuzzis, des sujets féminins déglingos. Ah ben non, 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 plutôt le Monde Académie et du documentaire. Après, on se dit que vu le sérieux de ces sujets, elle est à deux doigts des pieds en éventail, des pina colada, hashtag food porn. Non, non, bah non, elle intègre plutôt une rédaction. D'abord TF1, puis Quotidien. De quoi bien se la tartiner? Ah non, même pas. Les mots qui reviennent sont bosseuse et sérieuse. Lilia, mais quel exemple vous donnez à la jeunesse d'Instagram, c'est irresponsable. Et quand vient le passage dans le petit écran, c'est en mode pépouze, low profile, qui a réussi l'exercice et se fait remarquer à l'heure des clashs et des nouilles en slip. Perso, je trouve ça moyen, cette petite valeur travail. Voilà donc notre invitée repérée pour sa présence quotidienne dans un talk show de grande écoute. On se dit qu'en toute logique, c'est là que ces jolis plombs vont sauter. Arrogance, exigence incongrue et autres comportements déplacés. D'autant qu'elle a foulé entre-temps le catwalk de Jean-Paul Gaultier. Bah non, 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 elle va plutôt écrire un roman. Alors aujourd'hui, bah avec nous, une invitée pas si docile, mais drôlement déterminée, il me semble, en tout cas.
C'est un joli portrait.
Pas si docile, mais drôlement déterminée. Ça vous correspond?
Oui, je crois que je suis pas si docile,
non.
En fait.
Mais drôlement déterminée.
C'est le jeu des apparences. Mais c'est marrant parce que c'est ce dont je parle dans mon oui. roman, d'ailleurs. Ouais, c'est ouais. Ce jeu d'apparence et je crois que ça marche pour moi aussi, en fait.
Il ne faut pas se fier aux apparences.
Non, il ne faut pas se fier aux apparences.
Bien. Livre hebdo qui vous consacre un portrait ce mois-ci le termine en disant « C'est une des étoiles montantes du PAF, mais tête bien faite autant que pleine, elle semble tout sauf grisée par les sunlights du showbiz ». Les sunlight du showbiz. Vous aviez entendu cette expression depuis 1982?
Cette expression, elle est un petit peu, un petit peu désuète. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas moi, en fait. Je me vois pas arpenter les soirées voilà, bon, ça après sans aucun mépris, mais c'est juste que je suis bien, enfin je pense que je me sens bien dans une forme de solitude aussi parfois.
Bien, Lilia Sen, allons sous les sunlight de la pop culture, comme disent les millennials, c'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous choisissez Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, paru en 1697. Charline, si ma mémoire est bonne, il y est question, comme dans Le Dernier Tango à Paris, d'un petit pot de beurre, n'est-ce pas ?
Alors, si vous entendez par cette comparaison une fin malheureuse pour l'héroïne qui se fait avoir et manger par le loup, je dirais oui.
Mmh. Lilia, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Bien sûr. On voit ici que de jeunes enfants, en fait ça c'est la morale du conte, on voit ici que de jeunes enfants, surtout des jeunes filles belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange, s'il en est tant, que le loup mange. Je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux.
Méfiez-vous des loups, jeune fille.
Méfiez-vous des loups, c'est ça.
Pourquoi est-ce que ça vous a tellement marqué, ce conte ?
Parce que, alors moi j'aime beaucoup le conte de Perrault, parce qu'il y a énormément de versions du conte du Petit Chaperon Rouge. Le conte de Perrault, c'est un conte du XVIIe siècle, qui est un conte assez cruel en fait, parce qu'à la fin, le loup mange la petite fille. Contrairement à la version du 19e où le loup mange la petite fille, mais il y a un chasseur qui arrive et puis qui ouvre le loup du ventre, le ventre du loup, pour faire sortir la petite fille. Il met des pierres dans le ventre du loup et le loup se noie. Voilà, ça c'est pour pas traumatiser les enfants. La version du 17e, au contraire, c'est pas du tout une version pour enfants. Et on le voit d'ailleurs, parce que le loup, c'est pas vraiment un loup. Il arrive, c'est compère le loup, il parle très bien, il fait des tournures de phrases un peu inversées. D'ailleurs, elle n'en a pas peur du tout. Il lui dit « Prends ce chemin-ci, moi je prendrai ce chemin-là ». Elle l'écoute, elle prend le chemin le plus long. Lui, pendant ce temps, il va manger la grand-mère. Et elle prend le chemin le plus long, elle découvre un peu les jouissances de la vie, elle découvre les petites fleurs, etc. Et puis, elle arrive dans la maison, qui est la maison de sa grand-mère, et c'est le loup qui est à la place de la grand-mère. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on voit que le loup qui prend l'apparence de la grand-mère, c'est la figure du prédateur sexuel, en fait, qui prend l'apparence du plus proche des plus proches. Souvent, c'est le père, c'est le grand-père. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inceste et de la pédophilie dans ce conte, en fait, qui est beaucoup plus cruel. Et même le chaperon rouge, cette couleur, c'est la couleur de la puberté. Enfin, ça, c'est Bettelheim qui montre ça dans la psychanalyse des contes de fées. Cette couleur rouge, c'est la couleur de la puberté, de la jeune fille qui vient d'avoir ses règles. Et donc, c'est pas du tout un conte pour enfants. Sous l'apparence de naïveté, il y a quelque chose de très cruel.
Donc plus Charles Perrault que Marcel Proust, votre petit chouchou.
Alors Proust, c'est celui qui m'a accompagnée depuis tout le temps de l'écriture de mon livre. Je suis même allée l'écrire à Cabourg en partie. Perrault, c'est bizarrement en fait, mon premier roman, c'est une sorte de conte. Et c'est vraiment après que je me suis rendu compte qu'il y avait des accointances avec l'histoire de Perrault, qu'il y avait des points communs, en fait. Je ne vais pas dévoiler pourquoi, mais il y a pas mal de points communs, justement, pour cette apparente naïveté. Et puis, petit à petit, ça devient de plus en plus vénéneux, comme ça.
Ne dévoilez rien. Ne divulgâchez rien, ouais, comme
pas
on dit.
Hein.
Bon, alors, pour le film Lilia Sen, direction la fausse ville de Sea Haven, car vous choisissez The Truman Show, film réalisé par Peter Weir en 98, une parabole sur le monde de la télé. En même temps, comment parler de la télé sans parabole, Charline ?
Grâce à la TNT. Le film raconte la vie de Truman Burbank, une star de télé-réalité, qu'il est d'ailleurs le seul à ignorer. Depuis sa naissance, son monde n'est qu'un gigantesque plateau de tournage et tous ceux qui l'entourent sont des acteurs.
Ils ont emprisonné un enfant.
Truman, t'es interdit !
Pourquoi ? Y'a quoi de l'autre côté ?
Ils ont créé un mensonge.
Envoyez le soleil.
Ils contrôlent une vie.
Truman Burbank.
J'ai pas le droit de t'adresser la parole.
Et ils appellent ça...
Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux
que de te trahir.
Et là, on se met doucement jusqu'au gros plan.
Un divertissement.
Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche.
Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme.
The Truman Show.
C'est cette vision très critique et lucide de la télévision qui vous a tapé dans l'œil ou c'est Jim Carrey ?
Un peu les deux, et puis aussi autre chose, c'est que En fait, on s'est pas mal servi de ce film pour dénoncer un peu la télé-réalité d'enfermement à un moment. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'en fait, on y est. Toute la génération des jeunes femmes aujourd'hui qui ont fait de la télé-réalité, qui se sont fait connaître grâce aux réseaux sociaux et qui ont aujourd'hui 25-30 ans, ont des enfants. Et c'est des enfants qu'elles exposent, qu'elles prennent en photo. Mais il y a des photos d'échographie aujourd'hui sur Instagram. Elles mettent l'échographie, elles font un catalogue de toute leur grossesse. Et puis après, il y a le pot à pot avec le papa, le pot à pot avec la maman. L'enfant est pris en photo 15 fois par jour, filmé à visage découvert, vraiment, mais par les parents eux-mêmes, en fait. Les parents se sont transformés en producteurs, un peu comme Christophe dans le Truman Show, qui est le producteur qui encadre toute la vie et qui filme ce Truman.
Donc, en fait, c'est le côté visionnaire du film qui vous
Le côté visionnaire, ça me frappe beaucoup parce qu'effectivement, pour la première fois, en ce moment, on assiste à quelque chose de l'ordre de la vie privée de l'enfant qui est montré comme ça sur Internet. Il y a toujours eu des enfants, des minimistes, des enfants qui étaient connus pour des choses un peu liées au travail, des enfants chanteurs, etc. Pour la première fois, c'est la vie privée de l'enfant qui est totalement dévoilée.
Mais parce qu'ils ont accès à des médias beaucoup plus directs, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de la télé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui font maintenant des tutos sur YouTube, qui s'exposent.
Mais par exemple, un nouveau-né, c'est les parents qui le mettent en scène.
Oui, bien sûr.
On lui demande pas son avis.
Je pense que des enfants qui font des tutos d'unboxing sur YouTube, et quand ils ont 6 ou 7 ans, ils le font pas tout seul non plus.
Le nouveau loup, c'est la télé.
je crois pas. Moi, je pense que le nouveau loup, c'est peut-être plus les réseaux sociaux. Parce que précisément, ces enfants se font dévorer un peu par les ambitions de leurs parents. Les parents ont des rêves de gloire, pas sûr que les enfants aient les mêmes, mais pourtant, ils leur imposent quelque chose. Et puis rien n'interdit aujourd'hui des parents de filmer leur enfant 24h sur 24,
Alors, Lila, pour la série, vous avez choisi The Handmaid's Tale, la série créée par Bruce Miller, adaptée du roman de Margaret Atwood, et diffusée en France sur OCS. La femme est peut-être l'avenir de l'homme, mais cet avenir est bien sombre s'il ressemble à celui de Handmaid's Tale, n'est-ce pas, Charline?
Oh, de la bonne rigolade en perspective. Dans la série, trois possibilités pour nous les femmes, nous le charme, les épouses qui dominent la maison, les Martha qui l'entretiennent, et les servantes dans le rôle et la reproduction.
It's morning again in America. Today, more women will go to work than ever before in our country's history. This year, dozens of children will be born to happy and healthy families. It's morning again.
It's morning again. It's morning again.
Wake up, America. Morning's over.
Alors, Lilia Hassène, pas de parabole cette fois-ci, mais une fois de plus, une vision sombre de ce qui nous attend. Nous, les femmes.
C'est vrai. Et d'autant qu'il y a un point commun aussi avec le petit chaperon rouge, c'est que c'est des femmes qui ont des petits chaperons rouges, qui ont des chaperons rouges sur la tête.
Exactement.
Ça, c'est marrant, mais c'est en faisant la pop-list que je m'en suis rendu compte. C'est qu'en fait, finalement, ce truc de la femme qui peut procréer, qui est en rouge comme ça, c'est un symbole qu'on retrouve un peu partout. Et puis ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, il y a quelque chose de l'ordre de la sororité qui se met en place. Ouais. Les femmes qui deviennent de plus en plus solidaires, etc. Et puis effectivement, il y a encore une fois la fiction qui anticipe la réalité. Quelque part, ce monde, enfin, c'est en l'occurrence les États-Unis, mais qui sont frappés par la stérilité progressive des hommes et des femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de problèmes de fécondité chez les hommes et les femmes. Et puis, on voit aussi comment ce système un peu totalitaire s'est mis en place par des toutes petites choses, en fait. Et aujourd'hui, on peut pas ignorer ce qui se passe dans l'Amérique de Trump.
Le recul des droits des femmes.
On voit qu'en Alabama, c'est 25 sénateurs qui décident de restreindre le droit à l'avortement. En fait, on y est. C'est des petites choses comme ça. Enfin, des petites choses. C'est pas petit. Mais voilà, eux, ils ont une ambition, c'est de faire reculer la Cour suprême sur une loi qui est la loi du droit à l'avortement aux États-Unis, quoi.
Bien. Terminons cette pop-list sur une note un peu plus optimiste avec votre chanson culte. Et cette chanson, c'est celle-ci.
Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Chant comme un vide. Remets-moi Johnny Cash.
Gabi, oh Gabi, la chanson d'Alain Bashung, parole de Boris Bergman, sortie en 1980 et que vous citez dans votre roman. Vous avez envie de danser sur la table quand vous écoutez ça?
Un peu, moi j'aime bien la poésie de Bashung, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, mais j'aime bien les nuits des années 80, c'est quelque chose qui m'amuse et je trouve qu'il y a une folie dans ces nuits-là. Notamment par exemple sur cette chanson, il l'a chantée au milieu d'autotamponneuses, c'est des trucs qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Mais je trouve ça assez marrant. Après, voilà,
Mais lié à les folies des années 80, vous n'avez pas connu les années 80.
Non, et d'ailleurs, je les idéalise pas du tout parce que c'est aussi les années SIDA, c'est des années assez violentes. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce que j'ai dans mon roman, la lumière des téléphones a remplacé la lumière des stroboscopes, les cigarettes sont fumées à l'extérieur des boîtes. Il y a quelque chose d'un peu. La nuit a changé de statut presque aujourd'hui. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple, les bars à Paris ferment à 2h du matin. Donc, bon. Et en même temps. Je trouve que quelque part il y a du coup une forme de résistance aussi dans le fait de vivre la nuit aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'injonctions à bien dormir, à pas boire, à pas fumer, que les gens qui vivent la nuit aujourd'hui ou qui sortent la nuit sont peut-être de plus grands résistants que les noctambules des années 80.
Ils se rattrapent. Alors je résume, Le Petit Chaperon Rouge, The Truman Show, The Handmaid's Tale et Bashung, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne cette chose étrange.
It's morning again in America.
Ils ont emprisonné un enfant.
Truman!
This year, dozens of children will be born to happy and healthy families.
Il contrôle une vie.
On voit ici que de jeunes enfants, surtout des jeunes filles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens.
It's morning again.
Et là, on se met doucement jusqu'au gros plan.
Wake up, America. Morning's over.
Elle est morte de rire.
Ouais, ça n'a aucun sens ce mélange, mais c'est drôle.
Vous pensiez mixer tout ça un jour sur une radio de grande écoute, la première radio de France, rappelons-le.
Mais il y a quand même une forme de gravité dans le mix.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'entre Bashung et Le Petit Chaperon Rouge.
Lydia Hassen, on va parler de L'Œil du Paon, votre premier roman, édité chez Gallimard dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, tiens, votre chanson culte.
Je me mouille. C'est ma dernière surprise partie. Je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol. J'en vois un qui rigole.
Et c'est
France Inter. Hop, hop, hop. Antoine Decaune.
Et Charline Roux.
Taille, âge et à nouveau taille sont les occurrences qui arrivent en premier lorsqu'on tape votre nom sur Google, Lilia Hassen. Mais aujourd'hui dans Pop, hop, hop, on parle non pas d'auteur avec un H, mais d'auteur avec un A. Et un E au bout, puisque vous venez nous présenter votre excellent premier roman, L'œil du Pan, édité chez Gallimard. Alors un premier roman pour lequel vous avez mis en veilleuse votre pourtant très remarquée participation à un célèbre talk show quotidien du PAF, comme si vous vouliez vivre pleinement ce moment unique dans la vie d'un écrivain, la sortie de son premier livre. Comment se présente l'enfant ?
Bah c'est exactement ça, c'est comme un accouchement. J'en ai tous les symptômes d'ailleurs.
Signalons que c'est votre première interview. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir choisi Pop Pop Pop.
C'est ma première interview radio et c'est vrai que c'est exactement ça. Ouais, c'est un peu comme un accouchement. Je réalise pas encore vraiment ce qui est en train de se passer. Je pense que les retours de lecteurs vont être importants. Voilà. Et puis effectivement, j'ai mis en pause mon travail de journaliste parce que c'était pas forcément compatible. Ouais. C'est un travail qui prend énormément de temps. Et puis j'avais besoin de prendre un peu ce moment pour rencontrer mes premiers lecteurs, pour aller faire quelques salons. Voilà. C'est important aussi de se poser.
Bien sûr, parce que c'est aussi un choix qui signifie en creux, hein, et d'ailleurs vous faites la preuve d'une belle maturité, qu'il ne faut pas tout mélanger dans la vie, qu'il faut retrouver la maîtrise de son temps, ce qui est un peu original dans notre époque très bousculée, non ?
Oui, c'est un peu ça, c'est que le temps du journalisme, c'est un temps qui est assez court, c'est le temps de l'énergie, il y a une forme de pression, de stress, parce qu'il faut tous les jours produire quelque chose. Et le temps de l'écriture, le temps de la littérature, c'est un temps long. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu... je me sentais pas de repartir dans une forme de schizophrénie comme ça. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait, même ce livre, quand je l'ai écrit pendant mes vacances, je l'ai écrit sur mes vacances d'été, parce que j'avais besoin, je suis partie seule à Cabourg, je suis partie seule dans les Alpes, j'avais besoin de ce temps pour vraiment me poser, pour déconnecter complètement.
Et maintenant qu'arrive le temps de la sortie, vous vous sentez comment ? Soulagée ou effrayée ?
Je pense un peu effrayée. Parce que c'est une activité un peu solitaire et dans mon cas qui était très secrète parce que j'en ai parlé à quasiment personne. Et donc voilà, il y a eu tous ces étés où je partais seule où j'ai plein d'amis qui se demandaient ce que je fabriquais toute seule en vacances. Et puis un jour, bon, on commence à en parler, donc les gens sont curieux, ils veulent lire, ils veulent découvrir. Et c'est vrai que ce domaine de l'intime devient un peu public. Et c'est le moment où il faut en parler, comme aujourd'hui où. Et c'est pas évident, parce que c'est vraiment quelque chose d'intime et qui était presque secret, en fait.
Alors, presque secret, sauf pour votre petite sœur Ilana, à qui vous dédiez d'ailleurs ce livre. Ilana, qui a 13 ans, qui a été votre première éditrice, donc.
Qui a été ma première, ouais, qui a été ma première lectrice. Et en fait, je trouvais ça bien de faire lire à un enfant, parce que je me suis dit, bon, en fait, elle aura pas de filtre. Si elle s'ennuie, elle me le dira. Et puis je sais qu'elle peut s'ennuyer très vite. Et puis c'est une bonne lectrice, donc elle lit énormément et ses retours étaient très pertinents.
C'était quoi ses retours justement ?
Le fait qu'elle s'attache à certains personnages. En fait c'est ça qui m'a. En fait dans les moments où j'avais envie d'arrêter, parce que plein de fois j'ai eu des gros moments de doute. À plusieurs reprises, elle venait me demander des nouvelles de mes personnages. Elle me disait mais alors lui, mais qu'est-ce qui va lui arriver ? Et donc, je me suis dit, bon, si elle s'y est attachée, et j'ai senti que c'était sincère, parce que vraiment, elle venait m'en parler.
Même si ce n'est pas un livre pour enfants. Hein.
Non, c'est pas un livre pour enfants. Après, je pense pas que ce soit... C'est pas un livre très difficile non plus. Elle l'a lu trois fois, du coup. Elle a 13 ans. Mais bon, c'est vrai qu'elle a, a pas mal de maturité, et puis elle regarde des films un peu pour adultes, elle regarde des films avec nous. Mais c'est pas un film... Il y a différents degrés de lecture, en fait, dans ce livre.
Parlons un peu de vos personnages, Titus, Héra, Adonis. Plusieurs personnages de votre histoire portent des noms hérités de la mythologie grecque et ce sont d'ailleurs des personnages qui ne peuvent pas échapper à leur destin, comme pour mieux les extraire de notre époque, on dirait, et ces prénoms. Et il règne une atmosphère d'irréalité dans votre histoire. Vous aviez en tête d'écrire un conte ?
Je crois que c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure. Je faisais un travail très, très connecté à la réalité. Je pense que j'avais besoin d'aller un peu ailleurs, d'aller un peu sur une île, un peu comme mes personnages qui... l'histoire commence sur une île. J'avais besoin moi-même de me retrouver un peu dans cette île mentale. Et effectivement, ces prénoms au début... En fait, bon, l'histoire arrive très vite à Paris. Hein, donc c'est au début, c'est une sorte de petite parenthèse un peu enchantée, proche du conte. On ne sait pas très bien où on est. Et moi, j'avais envie de renforcer un peu ça avec des prénoms, justement, qui montrent que c'est... c'est cet espace de l'île qui est un espace préservé, coupé du monde, qui est entre la réalité et l'imagination, on ne sait pas très bien. Et puis après, effectivement, on entre dans un récit plus contemporain.
Mais ils ont tous des prénoms qui renvoient à quelque chose, que ce soit la mythologie, des prénoms bibliques, enfin, ils renvoient tous à une galerie de personnages bien précis.
Je trouve que les prénoms, c'est fondamental ouais. dans un livre.
Alors, vous ne faites pas de musique, je ne peux pas vous poser la célèbre question de l'album de la maturité, mais on dit souvent qu'un primo ou qu'une primo-romancière met beaucoup de lui ou d'elle dans sa première œuvre. Alors, vous, est-ce que vous vous trouvez dans cette histoire de jeune femme insulaire débarquant dans un pays, Paris, pas toujours accueillant, entouré de gens étranges, voire hostiles ?
Alors, ce n'est pas du tout autobiographique. J'ai pas du tout voulu faire de l'autofiction. Après, ce qui est drôle, c'est que en passant par la fiction, souvent on dit énormément de choses de soi, mais on découvre beaucoup de choses de soi-même. Je me suis rendu compte que par les choix que je faisais, les choix de caractère de mes personnages, les situations dans lesquelles je les mettais, que quelque part, oui, ça dit des choses de moi. Et puis en plus, je mets mon regard aussi sur le monde, sur Paris, sur le Paris contemporain. C'est effectivement mon regard. Donc en fait, c'est presque plus personnel encore que si j'avais fait une autobiographie. Alors même que l'histoire en tant que telle, c'est pas moi et c'est pas mon histoire. C'est vraiment un travail d'imagination et d'invention.
Hera, le personnage principal du roman, quitte donc son île sauvage de Croatie pour fuir une malédiction qui remonte à il y a déjà quelques années. Sur cette île, elle aime prendre en photo les somptueux pans qui donnent leur titre au livre, et elle va passer des clichés des pans aux pigeons gris de Paris pour trouver refuge chez sa tante. Pourquoi avoir choisi cette ville de Paris ? Je sais que vous citez Trouville et j'y étais très sensible, mais pourquoi Paris ?
Paris parce que...
C'est un endroit où on perd ses illusions ?
En fait, c'était même pas Paris en tant que tel, c'est vraiment plus l'incarnation de la ville, en fait. Moi, j'avais vraiment envie de que voilà, c'est la ville, en fait. C'est parce que Paris, bon, je fais pas des descriptions non plus très précises de Paris. C'est plus un climat contemporain. C'est plus une époque que je décris que la ville de Paris en tant que tel. Après, et puis c'est par jeu aussi de contraste avec l'île avant, qui est justement cet espace. Un peu enchanté. Voilà, je voulais que ce soit très beau, très poétique, ces passages-là. Et arriver à Paris, où là, pour le coup, ben, voilà, on peut se prendre un peu des trucs dans la figure auxquels on ne s'attend pas.
Sans rien spoiler de l'intrigue, vous abordez des thèmes dans l'œil du pan assez sombres, voire dérangeants. Vous êtes de nature ombrageuse et pessimiste, ou au contraire, c'est pour mieux voir la lumière ?
Je crois en fait que ces thèmes-là... En fait, c'était justement moi, parce que j'aimais bien les contrastes aussi. Je trouve qu'il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas une part d'ombre. Et ce qui fait la beauté souvent d'un livre, je trouve, c'est quand la part d'ombre surgit de la lumière précisément. Quand on lit, je sais pas, Pessoa, ou il y a souvent une grande poésie, une grande beauté dans des phrases qui sont des phrases très déprimantes. Mais voilà, moi, je me voyais pas écrire un livre complètement trash ou complètement noir parce que déjà j'en avais pas spécialement envie. On est dans une époque déjà assez sombre comme ça. Et au contraire, je trouve que d'être dans un récit assez lumineux, ça fait ressortir encore plus les parts d'ombre. Et puis au contraire, du coup, ce qui arrive à un moment de l'intrigue que je ne révélerai pas ici, les quelques retours de lecture que j'ai eus, c'est que voilà, du coup, on s'y attend pas du tout. Mais un peu comme plein de choses dans la vie.
Ouais. C'est un livre très, très étrange, très, qui baigne dans cette ambiance irréelle, cette atmosphère de conte qu'on évoquait il y a quelques instants. Pour finir, je sais que votre père, qui rêvait de devenir fermier,
c'est pas qu'il rêvait de devenir fermier, non, il a toujours aimé
vivre à la campagne,
etc. Ouais. Après, non, je peux pas dire.
Il vient de vous offrir deux pans, hein, les pans du titre du livre. Alors, je sais que c'est pas très pratique comme animal de compagnie. Comment auriez-vous fait si le livre s'était appelé L'œil du tigre ?
Ben, je pense qu'il aurait été capable de m'offrir un tigre. c'est mon père, en fait, plein de surprises comme ça. Et non, les pans se sont envolés.
Les pans se sont envolés.
Ils se sont envolés, en fait.
Ils ont disparu.
Il les a pas éjointés, il voulait leur laisser leur liberté. Et quand on laisse la liberté à des pans, pendant une semaine, ils étaient très bien. Puis on est parti quelques jours en vacances, on est revenu, ils étaient partis.
C'est très compliqué à élever les pans.
C'est très dommage.
Mais en même temps, ça fait énormément de bruit, en fait. J'ai appris qu'il fallait une autorisation préfectorale pour avoir des pans.
Ah oui?
Donc, oui. Donc, en fait, bon, ils sont partis, mais je crois que mon père était un peu soulagé quand même aussi.
Ouais, c'est très dommage, vous auriez pu en faire d'excellents sandwichs, hein, dont raffolent les ambulanciers, les fameux pain-pont.
Non, non.
Ouais, les jeux de mots.
Non. Si,
mais non.
Si, bien sûr.
Ok.
Oui, voilà. Rappelez-moi, tiens, au lieu de rire comme une bécasse, vous rappelez-moi le titre du livre, s'il vous plaît.
L'œil du pan.
L'œil du pan, merci. Et c'est de
Lilia Hassan, notre invitée, juste en face de moi, chez Gallimard.
Bien, voilà. Bravo, merci.
Bravo.
Lilia, est-ce que vous savez faire ça?
Ah, pas du tout, je me suis entraînée, mais ça marche pas.
Vas-y.
Je vais essayer.
Non, pas du tout.
Okay. C'est le doigt sur l'intérieur de la bouche opposée, de l'autre côté.
C'est pas grave, c'est pas grave. C'était juste pour lancer les pop news.
Impossible.
Et si à l'écoute de ces quelques notes, vous commencez déjà à chalouper et beugler « No, I never felt like this before, yes, I swear it's the truth », bon bah ce qui suit est fait pour vous. Tout comme on ne laisse pas bébé dans un coin, on ne laisse pas un fan de Dirty Dancing dans une salle silencieuse, ou alors on dit merci à l'écran pop, dont on vous a déjà parlé ici, ce génial cinéma karaoké qui vous permettra donc de pleurer sur les pecs de Patrick Swayze, tout en chantant sur She's Like the Wind, folle séance le 18 octobre au Grand Rex à Paris et le 21 novembre au Pathé Bellecour de Lyon.
Mais dites-moi, ça fait longtemps que nous n'avons pas partagé un moment musical de qualité, et ce grâce à des classiques sublimés à la flûte et au kazoo, grâce à la chaîne YouTube Shitty Flute. Pour vos oreilles émerveillées, voici donc Bobby Vinton, Mr. Lonely.
C'est beau.
C'est émouvant.
Petite larmiche quand même.
Oui.
Hein.
Et moi je dis vivement Springsteen, Shitty Flute.
Saurez-vous reconnaître ce film adoré par Popopop et qui sort actuellement en Russie?
Это бред.
Et voici maintenant la réponse en VF.
C'est fou.
Et oui, c'est effectivement fou d'entendre François Civil et Benjamin Laverne deviser en russe dans Mon Inconnu, ici disponible en DVD, et que je vous engage vivement à regarder en français pour commencer, ainsi ce n'est déjà fait.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Moi. Merci Charlene.
Je vous en prie Gérard.
Mais non, le joker, bien sûr. Enfin, bon, Lilia Hassan, vous restez avec nous. Et avec vous dans la suite de Popopop, Joaquin Phoenix. C'est chic, mais avant d'écouter le Joker, écoutons Batman and Robin, enfin la version de Snoop Dogg. No one can save the day.
Batman and Robin, we have a bit of a problem. There's trouble ruining Gotham City. You must act fast.
Holy mackerel, Batman. I think these clowns need a backhand. Let's be the Gap Band. Drop the bomb on them and make them scat, man.
Batman et Robin vs Snoop Dogg. Pardon.
Snoop Doggy Dogg. Alors, qu'est-ce qu'on attend?
Voilà, Snoop Doggy Dogg, pépite désormais inscrite dans la pop culture grâce à votre confrère Yann Barthès, Lilia Hassen. Vous écoutez Popopop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon, regardez bien. Non, toujours pas. Nous sommes donc toujours en compagnie de Lilia Hassen et nous passons de votre sourire à celui du Joker, alias Joaquin Phoenix, nettement moins glamour. Joaquin Phoenix nous a accordé une interview avant la sortie du film événement Joker, donc bande annonce.
My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world.
Joaquin Phoenix, vous proposez une lecture libre et audacieuse de l'origine du Joker, un des personnages maléfiques les plus mystérieux de l'histoire des comics. Est-ce le monde qui l'a rendu fou, ou l'était-il avant? Ou plutôt, est-on condamné à devenir fou quand on a un soupçon de lucidité et d'innocence, autrement dit, quand on est un acteur?
I think that that's up to you.
C'est à vous de voir. Moi, j'aime ce film parce qu'il n'est pas didactique.
I think everybody has a different response.
Chacun réagit comme il veut.
I'm not exactly sure. What is the catalyst for the transformation?
Quel est le catalyseur de la transformation de Joker?
He was born with.
Est-ce que c'est inné?
I recognize the traits of PTSD.
En tout cas, il y a du trouble de stress post-traumatique dans son comportement. Quand il est attaqué par les gamins dans la rue, il est pétrifié. Il ne réagit pas. Ça montre qu'il a connu des traumatismes, des abus physiques.
Somebody that is in a highly reactive state. It's an overstimulated amygdala.
En fait, au niveau du cerveau, il a l'amygdale surstimulée.
And so he he looks for and perceives threat everywhere.
Il perçoit la menace partout.
So I, you know, I don't know where it begins. I don't think that there was
quelle est l'origine? Je ne sais pas. À mon avis, ce n'est pas un facteur unique qui a provoqué cette transformation.
You know, movies,
mais c'est ça qui m'a plu. Dans la plupart des films, notamment les films de super-héros, les motivations du héros et du méchant sont très simplistes.
There wasn't an easy answer for this.
Mais là, non.
And that's what I liked about it. You know,
c'est ça qui
m'a challenged me as I approached it because really there was some of his behavior that
c'était pas facile pour moi. Parce qu'il y a certains comportements qui m'ont révolté. Moi, j'ai dit, mais putain, mais arrête tes conneries. C'est ça que je me disais. Tu t'apitoies sur toi-même. En fait, il est complètement narcissique. Il veut qu'on s'occupe de lui, il veut de la bienveillance, et moi je dis, mais non, toi tu veux l'amour de tout le monde de façon disproportionnée.
So it was challenging to me as
donc c'était
an actor,
pas facile pour moi comme comédien.
And his violence through the lens of trauma.
J'ai étudié son comportement par le prisme du traumatisme et en fait j'ai vu qu'il réagissait à l'environnement dans lequel il avait grandi. Et ça m'a permis de travailler sur le personnage et d'avoir pour lui une certaine compassion.
Parmi les multiples éléments et images qui persistent dans la tête des spectateurs après le film, il y a ce rire irrépressible, douloureux. Comment est-ce que vous l'avez trouvé et est-ce qu'il a été un élément important de votre construction du personnage ?
Oui, le rire, c'est la caractéristique de Joker. Je me souviens que Todd est venu me voir. Il m'a montré un extrait d'un documentaire d'un type qui a une paralysie pseudo-bulbaire, une maladie qui fait qu'on se met à rire ou à pleurer soudainement alors que ça n'a rien à voir avec l'expérience du moment.
And I thought that was a really interesting way of approaching
façon très intéressante pour moi d'aborder le rire de Joker. Pendant le tournage avec Francis Conroy, qui joue le rôle de ma mère, on s'est posé la question de l'enfant qu'aurait été Joker. Et je me suis dit que c'est la partie d'Arthur qui a été refoulée. Je l'imaginais gamin, à l'école, assis là en classe et tout à coup se mettre à rire mais au mauvais moment. Et je me suis demandé comment la mère irait voir le proviseur pour parler de ça. Et j'imagine sa mère dire « Ah, vous savez, il a une maladie, il n'arrive pas à se maîtriser ». Et c'est ce qu'on lui a dit d'ailleurs à lui. Hein. Donc il y a cette transformation et donc au début, je me suis dit que c'était une maladie due au traumatisme.
Et
puis petit à petit, je l'ai abordé différemment. Puis à la scène à l'hôpital avec sa mère, et il dit à sa mère, « Tu m'as toujours dit que j'avais cette maladie, mais tu sais, c'est le vrai moi que tu vois là. »
I didn't have to answer for myself.
Et en fait, j'ai pas eu à faire le choix.
I didn't feel the need to.
C'était pas nécessaire pour moi de tout comprendre. Et encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas.
Votre Joker et son rire m'ont fait penser à un poète français qui s'appelait Antonin Artaud, comédien lui aussi à 16 heures et qui fréquentait le groupe surréaliste. Et la ressemblance est frappante, quasi magnétique. Qui aviez-vous en tête?
Well, I found this old footage of this. Teenager, young man, probably 18 or 19.
Je suis tombé sur une vieille vidéo d'un ado, 18-19 ans.
Who was being filmed? He was undergoing psychiatric evaluation.
Il était en évaluation psychiatrique.
And there was something just really compelling about him and his behavior.
J'étais scotché à le voir.
And that really informed the look.
Ça m'a permis de décider de l'aspect physique avec ce cardigan, cette chemise, ce pantalon. Puis j'aimais bien le look parce que j'ai imaginé Arthur, donc, dans les années 80, il a quoi, 35, à peine 40 ans. Et donc comme gamin, il aurait vu des émissions de télé qui étaient des émissions de télé sur la famille idéale américaine. Alors évidemment, il ne pouvait pas comprendre ça, mais il imaginait que c'était la norme. Et donc il est englué dans une autre époque. Ça se voit dans son habillement, dans sa coiffure. En fait, il n'appartient pas au monde dans lequel il vit. Il ne sait pas très bien qui il est. Il veut être une version de cette famille parfaite, parce que sa vie en est l'antithèse.
Puis
il y a plein de facteurs qui commencent à vous influencer quand on commence à travailler sur le personnage et on se fait des idées différentes. La perception évolue. Pendant le travail, je me suis éloigné des idées initiales. En tout cas, je ne pouvais pas me faire une conception figée des personnages. Parfois, je me dis, ah, ça y est, t'as compris. Et puis, en réalité, il n'y avait plus le feu intérieur quand je faisais ça. Donc, je restais en situation de veille permanente et je menais une enquête. Je cherchais toujours des indices nouveaux.
Votre Joker joue beaucoup de son corps, pas en faisant démonstration de force, mais au contraire en tentant de montrer une certaine joliesse par la danse, par des mouvements chorégraphiés, ce qui le rend encore plus inquiétant. Est-ce que vous avez voulu construire un Joker plus en phase avec son corps que son esprit ?
Well, I think it happened simultaneously. You're approaching it in so many different ways. You will...
Tout se passe simultanément. Pendant le travail, j'avais une grande table qui était recouverte de différents documents.
And so you will go from reading about a certain personality type that commits crimes.
J'ai lu des choses sur des gens qui sont des criminels. J'ai regardé des vidéos de gens qui dansent. Donc, j'aborde le personnage par différents angles qui résonnent les uns avec les autres. Et puis, mon alimentation m'a transformé. Donc, j'ai abordé les choses de différentes façons en même temps.
Merci Joaquin Phoenix. Joker, ça sort le 9 octobre, c'est-à-dire mercredi prochain. Nous sommes vendredi, et vendredi, ce n'est pas uniquement le nom du compagnon de Robinson Crusoe, c'est aussi le jour de livraison du Magnéto, le grand n'importe quoi d'Alexandre Verret. Et je vais prendre la Batmobile pour aller le chercher.
Et voilà! Là, je peux le mettre dans mon bat radio cassette. Et voilà!
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu dire bien des choses sur mon nez. Que c'est un roc, un pic, un cap, une péninsule.
Ah non, je t'assure, on dirait une tube.
Bien, alors voyons quelles sont les prévisions du bison futé. Ok, eh ben on va pas y aller.
J'avais acheté un super PC.
Il avait acheté un super PC.
16 gigas de RAM, écran Full HD.
16 gigas de RAM, écran Full HD.
Pour fêter mon achat, j'ai bu du Shushen. Tant et tant et tant que j'ai vomi sur le clavier.
Tant et tant qu'il a vomi sur le clavier.
Je suis dégoûté.
Merci Alexandre Verret. Le Grand N'importe Quoi, c'est chaque vendredi dans Pop Pop Pop. Pendant la diffusion du Grand N'importe Quoi, Joaquin Phoenix m'a demandé si on pouvait écouter un extrait de la BO de Joker. Alors j'ai demandé quel morceau il voulait et il m'a dit
Rock'n'Roll Part 2
de Gary Glitter.
Il n'a pas du tout une voix de chaton.
Alors j'ai répondu, mais bien sûr, mon cher Joaquin.
We'll be right back.
Gary Glitter, Rock'n'Roll partout dans Pop 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 sur France Inter pour le plus grand plaisir de Joaquin Phoenix et de Lilia Hassel.
Bien sûr, évidemment.
Lilia. Merci Lilia. L'œil du pan s'est édité chez Gallimard et c'est plus que recommandé par Pop Pop Pop.
Merci à vous
de nous avoir rendu visite et de nous avoir accordé cette première interview.
C'était un plaisir.
Merci. Je rappelle notre autre pop prescription du jour, Joker, le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix qui sort mercredi prochain. Le film est juste à tomber par terre. Et j'en profite pour vous annoncer que l'interview de Todd Phillips pour Pop 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 est à retrouver sur franceinter.fr. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Alexandre Chenet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale le Djoubaka, Raphaël Harry, notre stagiaire, et Xavier Combes à la traduction. Lundi dans Pop Pop Pop, Camille Cotin et eux. Eux, ce sont les Kaiser Quartet, c'est un quatuor à cordes, et ce sont les chouchous de Gonzalez, et ils seront en live sur la scène de Pop Pop Pop. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit le Joker à la fin de ses tutos make-up sur YouTube,
abonnez-vous à notre podcast.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, Pop Pop Pop. Sur Instagram et Twitter.
Faut pas parler avec un cintre dans la bouche, ça c'est très étrange.
C'est douloureux surtout.